Bonjour, des défilés sans violence, les gilets jaunes une nouvelle fois mobilisés hier, un calme qui n'empêche pas la colère, vous les entendrez. L'une de leurs revendications, la démocratie directe, nous irons en Espagne où un village en fait l'expérience depuis 40 ans. Nous serons à Baghouz, vous entendrez ces combattants des forces démocratiques syriennes qui ont fait tomber l'ultime bastion de Daesh en Syrie. Il y a 20 ans, l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, 39 morts, commémoration aujourd'hui. Et puis à 24 ans, il remporte l'une des plus belles classiques, Milan-San Remo. L'avenir sourit à Julien Alaphilippe.
Les invités de la matinale à 7h50, Patricia Martin, vous recevrez...
Michel Simon de Positif, mais aussi du Masque et la plume, qui signe un livre, une vie de cinéma.
Michel Simon, critique de cinéma donc. Et puis à partir de 8h20, à propos de la visite du président chinois qui débute aujourd'hui en France, question ce matin au sinologue historien François Godemant. La Chine à nos portes, la stratégie pour l'Europe, la stratégie de l'Europe. Eh bien c'est le titre de son dernier livre paru chez Odile Jacob.
France Inter.
Les gilets jaunes, donc, avec des samedis qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas.
Beaucoup plus calme, ce 19e samedi de mobilisation. Il faut dire que l'exécutif avait mis les moyens, notamment à Paris, où les Champs-Élysées étaient quasi inatteignables. Dans la capitale, les gilets jaunes se sont donc rassemblés à Montmartre. Ils étaient 5000, selon le ministère de l'Intérieur. Pas de violence. À la grande satisfaction des manifestants eux-mêmes, on peut montrer notre vrai visage, disaient ceux que vous avez rencontrés, Suzanne Chosaille.
Ça fait du bien, dit Monique.
Ah bah oui, pour une fois, le soleil, le monde, c'est parfait.
Ça, c'est une vraie manif de gilets jaunes, selon Alexandra.
De voir en fait ce qu'est réellement le mouvement, c'est bien, ça permet de le montrer et de pas se focaliser sur quelques images qui, malgré la manière dont elles sont montrées, restent isolées.
Moi, je trouve que quand même aujourd'hui, c'est une réponse très très positive à ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est vraiment chouette.
Son ami Arnaud se repose sur la pelouse après de longues heures de marche.
C'est une très jolie image, une très bonne ambiance, de la musique, des gens qui rigolent, des gens qui débattent, qui parlent de leurs idées. Et pas un seul policier dans les parages, qui prouve bien qu'il n'y en a pas spécialement besoin en fait.
Mais ça n'enlève rien à la colère, cette manifestation n'est pas naturelle, dit Patrick.
Elle nous a été imposée un peu quelque part, vous voyez. Parce que pour moi les Champs-Élysées c'est important. Et on nous parquette toujours dans l'Est parisien, vous voyez, où se trouvent les couches populaires. Nos gouvernants n'acceptent pas qu'on vienne sur leur lieu, et ça me dérange quelque part, vous voyez. C'est insupportable.
Et surtout, Pascal attend une réaction du gouvernement.
Combien de temps ça va durer? Combien de temps le gouvernement va faire la sourde oreille, va continuer à rester sur sa lancée? On veut des réponses du président parce qu'on ne les a toujours pas. Mais qu'est-ce qu'attend le gouvernement?
Voilà, alors quelques heures en fin de défilé du côté de République, des affrontements aussi en province, à Nice, Montpellier ou encore Lille. Parmi leurs revendications qu'ils ont à nouveau fait entendre hier, le référendum d'initiative citoyenne. En Espagne, un village d'Andalousie, Marina Leda, 2800 habitants, pratique cette démocratie directe depuis la fin de l'ère franquiste, depuis 40 ans. Un exemple d'autogestion que l'on vient examiner de près de toute l'Europe. Isabelle Labéry s'y est rendue.
À la coopérative agricole, il n'y a pas vraiment de patron et tout le monde a le même salaire, 1200 euros.
On a mis du temps, hein. Mais Marina Leda, c'est un rêve qui est devenu réalité.
Et quand il faut se prononcer sur les impôts, les transports en commun ou les horaires de la piscine municipale, le maire convoque une assemblée générale où l'on vote à main levée. Cela fait 40 ans que Juan Manuel Sánchez Gordillo porte cette utopie à bout de bras.
Le modèle de Marina Leda peut s'exporter n'importe où dans le monde. Il faut juste la volonté politique.
Il y a quelques années, Francis Banchet, militant alternatif du Tarn, a fait le déplacement à Marina Leda. Beaucoup l'ont suivi ces derniers mois.
Il faut s'en inspirer, bien sûr. À mon avis, c'est ce que les gilets jaunes recherchent. Il faut le faire connaître.
Pour éviter la spéculation immobilière, par exemple, la mairie a trouvé la parade, elle fournit les matériaux et ce sont les habitants eux-mêmes qui construisent leur maison. Marina Leda, Isabelle Labéry, France Inter.
L'actualité à l'étranger à présent, Bernadette, avec la chute de Daesh en Syrie, sa défaite militaire est totale.
Le groupe État islamique a perdu Baghouz, le dernier réduit qu'il tenait encore au nord-est du pays. Après avoir résisté pendant des semaines à l'offensive des forces démocratiques syriennes, soutenues par la coalition internationale, notre envoyé spécial Aurélien Collier était à Baghouz il y a quelques jours et déjà les combattants arabo-kurdes fêtaient la défaite militaire de Daesh. Écoutez son reportage.
Avant même l'annonce officielle, ils célébraient leur victoire sur Daesh. Une cinquantaine de combattants arabes revenant du front de Baghouz, parmi eux Shahin, 39 ans. Daesh, c'était vraiment horrible. La police religieuse te frappait si tu ne faisais pas la prière. Beaucoup de gens sont morts pour rien à cause d'eux, raconte cet ancien chauffeur de taxi qui a rejoint les forces démocratiques syriennes quand elles ont libéré sa ville, Karama, juste à côté de Raqqa. La politique de Daesh est contraire à l'islam. Ils ont brouillé l'image de notre religion qui repose sur l'amitié, poursuit l'homme, qui veut juste retrouver une vie simple après Daesh, voir les gens, voir les enfants vivre tranquillement. À côté de lui, Ahmed, 23 ans, ne reposera pas les armes qu'il a prises dès 2014. Torse bombé, Kalachnikov fièrement brandi, il raconte sa plus dure bataille, la libération de Raqqa en 2017. C'était difficile pour tous, mais pas pour moi, parce que mon cœur est vide depuis que Daesh a tué mes 5 frères, lâche le jeune homme au regard bleu perçant. C'est pour mon pays, c'est pour moi, c'est pour eux que j'ai pris ma revanche, ajoute-t-il, en expliquant que son avenir, ce sera au sein des forces démocratiques syriennes pour suivre un entraînement et devenir commandant.
Reportage d'Aurélien Colli. Emmanuel Macron va accueillir en fin d'après-midi le président chinois Xi Jinping à Nice. Il entame une visite de 48 heures en France. Paris place l'Europe et ses relations commerciales avec la Chine au cœur de cette visite. Des drapeaux européens en forme de cœur, justement. Ils étaient des centaines de milliers hier dans les rues de Londres pour dire non au Brexit, pour réclamer un nouveau référendum.
Un retour maintenant sur la tragédie du tunnel du Mont-Blanc. C'était il y a 20 ans.
Il est 10h58 ce 24 mars 1999 quand un automobiliste lance l'alerte. Un camion a pris feu au milieu du tunnel. Il fait plus de 1000 degrés à l'intérieur. Le bilan est terrible. 39 morts. Reportage de Benjamin Mathieu dans ce tunnel qui n'a plus jamais été le même après la tragédie.
Depuis le drame de 1999, de nombreux aménagements ont été effectués pour un montant de 400 millions d'euros. Eric Anoro s'occupe de faire visiter le tunnel pour la société qui le gère.
Sur la gauche, vous avez 37 abris. Vous les trouvez tous les 300 mètres à l'intérieur de la montagne.
En plus des abris et des 157 caméras, 70 pompiers professionnels se relaient en permanence sur le site, aux deux sorties, mais aussi dans le tunnel. André Parisi est pompier ici depuis 7 ans.
Nous, on arrive à sortir dans le tunnel à 1 minute 30, 2 minutes maximum. Comme ça, entre 5 minutes maximum, il y a quelqu'un sur l'événement.
Il dispose également d'un véhicule unique au monde.
Le Proteus, qui est ce nouveau camion, 12 000 litres d'eau. Il y a une thermocaméra pour la conduite dans le fumée et c'est spécifique pour les feux en tunnel.
Depuis la réouverture du tunnel en 2002, aucun incident majeur n'est à déplorer, même si les pompiers interviennent presque 300 fois par an pour des dépannages ou des petits incidents. Tous ces investissements font désormais du tunnel du Mont-Blanc une référence mondiale. Le tunnel du Mont-Blanc demeure, avec ses 1600 camions par jour, l'axe majeur de circulation pour le transport de marchandises.
Et la commémoration aura lieu en présence de la ministre des Transports. Le tunnel est pour cela fermé à la circulation ce matin. En sport, un Français au-dessus du lot, Julian Alaphilippe, remporte au sprint la première grande classique de la saison, Milan-San Remo. 298 km parfaitement maîtrisé, Fabrice Rigobert.
Deuxième de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège 2015, quatrième des Jeux de Rio 2016, troisième de Milan-San Remo 2017, Julian Alaphilippe a souvent collectionné les places d'honneur. C'est sans doute dans ses échecs qu'il est allé chercher les ingrédients qui ont fait de lui un vainqueur en série depuis ses deux succès sur le Tour de France avec son beau maillot à poil était passé. Sa septième victoire décrochée depuis le début de l'année montre tout simplement le coureur qu'il est devenu.
La pression, je suis un peu habitué à la ressentir déjà depuis quelques années. C'est sûr que là, je la ressentais beaucoup depuis quelques jours. Suite à mes derniers résultats, les gens me voyaient déjà gagner alors que rien n'était fait. Je pense que j'ai répondu de la meilleure des manières. J'ai surtout été là où je m'attendais beaucoup, moi. Le reste, c'est que du bonus.
À 26 ans, Julian Alaphilippe impressionne tous les observateurs et son avenir s'annonce radieux pour notre consultant Jean-François Bernard.
Liège-Bastogne-Liège, l'Amstel sont des courses qui rentrent tout à fait dans ses cornes. Hein. Je crois que c'est un coureur maintenant qu'on peut attendre un petit peu partout. Il ne manquera plus que les courses de 3 semaines. L'obstacle d'Alaphilippe à l'heure actuelle pour le Tour, c'est la haute montagne.
Et à défaut de remporter le Tour de France, Julian Alaphilippe se verrait bien endosser un jour le maillot de champion du monde qui fuit le camp tricolore depuis 1997.
Et puis au Masters de Miami, Caroline Garcia se hisse pour la première fois cette saison en huitième de finale d'un tournoi du circuit mondial. Elle surclasse l'Allemande Görges en 2-7 rondement. largement mené, 6-0, 7-5.
Et le journal des sports complet, ce sera à 8h10. C'était le journal de Bernadette Chamonaz.